Chers amis, nous avions vu les dernières fois que l'homme est mis en question par les nouvelles technologies, et particulièrement par l'IA, l'intelligence artificielle. C'est lui, l'homme, qui a créé ces nouvelles technologies, mais il semble à la fois fasciné et dépassé par les progrès de celles-ci, et notamment de l'intelligence artificielle. Il tente à la diviniser et à se mettre sous son joug. Au lieu de prendre comme critère de discernement dans ses choix son intelligence, ses valeurs, sa conscience, il se confie à la puissance de l'intelligence artificielle et lui laisse décider ce qui est le meilleur, puisqu'il pense qu'elle saura mieux que lui ce qu'il est bon de faire. Quelque part, il abdique ce qui fait son humanité et sa grandeur et transfère à la machine le soin de décider pour lui. Nous avons tendance à rire quand nous voyons des jeunes consulter ChatGPT pour soumettre à la machine leurs interrogations existentielles. Mais cette attitude reflète une tendance qui se banalise. Par exemple, des étudiants délèguent à l'IA les devoirs à faire, les mémoires à écrire. Et ce qui est plus effrayant encore, c'est qu'elle se déploie, cette attitude de délégation des choix aux algorithmes, jusque dans l'armée, pour les prises de décision en contexte de guerre. Et d'une certaine manière, cela ne nous étonne pas, dans la mesure où nous avons basculé dans une société matérialiste et athée, où l'enjeu n'est pas tellement l'éthique, mais la performance, où l'idéal de l'homme n'est plus la sainteté, mais l'efficacité. Nous sommes en face de deux anthropologies très différentes, l'une issue de la Bible, où l'homme est reconnu comme image de Dieu, appelé à participer à la vie même de Dieu dans l'amour, et l'autre issue de notre modernité technocratique, où l'homme, plein d'hubris, se prenant souvent pour Dieu, crée des technologies par lesquelles il voudrait s'affranchir de ses propres limites humaines et participer d'une nouvelle forme de puissance et d'omniscience attribuée désormais à l'intelligence artificielle. Mais de ces deux anthropologies, ne peuvent naître que deux modèles de société bien différents, que le pape Léon XIV a évoqué dans sa dernière encyclique Magnifique Humanité, comme Babel ou Jérusalem. En effet, l'anthropologie chrétienne qui s'est déployée à partir de la Bible s'est épanouie dans ce que nous pourrions appeler un humanisme chrétien. Et cet humanisme chrétien a imprégné toutes les sociétés chrétiennes pendant des siècles, promouvant la dignité humaine, le respect des peuples, le bien, la vérité, l'amour et les lois divines comme critères ultimes du choix. C'est la civilisation irriguée par le christianisme qui a donné naissance au droit qui régit la guerre pour justement la limiter le plus possible, la circonscrire selon des règles pour que les populations civiles soient protégées. C'est à des moines et des évêques qu'on doit la trêve de Noël, par exemple, dans les combats. Ce sont les valeurs chrétiennes et humanistes qui ont donné naissance à la notion de proportionnalité dans la riposte, la légitime défense comme seule justification pour prendre les armes, l'interdiction des armes de destruction massive comme les bombes nucléaires, les armes biologiques, chimiques, par exemple, parce qu'elles touchent aussi bien les militaires que les civils. Il y a une éthique de la guerre. Il y a des conventions internationales qui cherchent à humaniser la guerre afin d'en atténuer le plus possible les conséquences terribles pour les populations. Par exemple, on ne maltraite pas des prisonniers, on ne tire pas sur des ennemis qui se rendent, on ne tue pas des civils, on ne bombarde pas des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte. La fin ne justifie pas les moyens. Et donc on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen sous prétexte de vouloir remporter la victoire. Nous avons un bel exemple de cette magnanimité dans le combat, à la personne de Charles de Bonchamp, militaire français et général royaliste de la guerre de Vendée. En mars 1793, l'ouest de la France est touché par de nombreuses insurrections paysannes. Des paysans viennent chercher Charles de Bonchamp pour lui demander de prendre la tête de l'insurrection. Bonchamp se montre réticent et doute qu'une victoire soit possible contre les troupes de la République. Mais il finit cependant par accepter. Sans illusion, il quitte sa femme qui est enceinte en lui déclarant « Nous ne devons même pas prétendre à la gloire humaine. Les guerres civiles n'en donnent point. Arrivé à Saint-Florent-le-Vieil, Charles de Bonchamp rétablit un certain ordre. Il organise la défense du bourg et fait proclamer une grâce pour les républicains emprisonnés. Les insurgés font jurer aux prisonniers de ne plus porter les armes contre eux. Puis ils les remettent en liberté. Ils font ensuite chanter un Tédéum par le curé réfractaire de Saint-Florent. Les combats font rage, tantôt à l'avantage des Vendéens, chrétiens et royalistes, tantôt à l'avantage des républicains. Mais arrive la bataille de Cholet, où les Vendéens sont battus et Bonchamp gravement blessé. Tous se replient, et pour se mettre à l'abri, ils doivent franchir la Loire. Seulement, que faire des prisonniers républicains emprisonnés depuis plus de 4 mois à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil ? Les officiers vendéens constatent qu'ils ne peuvent leur faire franchir la Loire et envisagent de les faire fusiller. L'épouse du général Lescure écrit dans ses mémoires « Tous convinrent qu'il fallait les fusiller sur le champ. Mais quand on demanda qui ira en donner l'ordre, personne n'en eut le courage. L'un disait que ces malheureux, pris la plupart depuis 4 à 5 mois, n'étaient pas la cause des massacres, que cette horrible boucherie commise de sang-froid était au-dessus de ses forces. Un autre que ce serait légitimé, pour ainsi dire, les horreurs commises par les Bleus, les Républicains. Que cela redoublerait la rage des Républicains et les empêcherait de faire grâce à aucune créature vivante dans la Vendée, où il restait encore plus de la moitié des habitants. Enfin, personne ne voulant faire exécuter une résolution aussi barbare, chaque officier se retira sans donner d'ordre. Monsieur de Lescure, donc militaire opposé à la Révolution, n'avait pu prendre part à aucune délibération. Il était blessé, couché sur un matelas, et moi assise auprès de lui. Seul, je pus l'entendre, quand on parla de tuer les prisonniers, dire entre ses dents « Quelle horreur !» Quant à Bonchamp, à l'agonie, il apprend l'imminence du massacre. Il charge alors un de ses officiers d'obtenir en son nom la grâce des prisonniers. Celui-ci saute alors à cheval et se précipite sur l'esplanade devant l'abbaye en criant « Grâce aux prisonniers, Bonchamp le veut ! Grâce aux prisonniers, Bonchamp l'ordonne !» Et c'est ainsi que les prisonniers républicains furent sauvés. Ces hommes se battaient pour une noble cause, et habités par les valeurs chrétiennes, ils ne s'étaient jamais livrés à des représailles sanguinaires. Ils ne pouvaient donc envisager de massacrer des soldats et de se comporter avec autant de cruauté que les républicains s'étaient comportés envers eux. Ils n'avaient pas perdu de vue l'humanité de ceux qu'ils combattaient, et ils n'avaient donc pas perdu leur propre humanité, puisqu'ils préférèrent faire grâce à leurs ennemis plutôt que de perpétrer un massacre. Vous me direz peut-être que cette époque est révolue et que depuis longtemps on n'agit plus ainsi. Sans doute, même s'il reste, je pense, dans toutes les armées du monde, des hommes intègres. Mais ils sont peut-être de moins en moins nombreux, sans doute parce que la devise de Sainte-Jeanne d'Arc a été oubliée « Dieu premier servi ». En effet, quand nous mettons Dieu en premier dans nos vies, alors nous n'oublions pas que l'homme est l'image de Dieu et qu'il doit être respecté et honoré, même s'il est notre ennemi. Aujourd'hui, les choses ont tendance à changer radicalement. On se situe dans une autre anthropologie, où l'homme n'est plus perçu comme image de Dieu. Même le droit international, pétri de valeurs chrétiennes, est foulé aux pieds par les puissants de ce monde. L'hubris, la démesure, l'orgueil, la volonté de puissance, se sont comme emparés des dirigeants pour établir non pas la justice et la paix, mais pour asseoir leur domination par la force, au mépris même du droit et des conventions internationales. On prétend établir la paix par la guerre. Mais comment pourrions-nous établir la paix par quelque chose qui la contredit si radicalement? La finalité noble de la paix ne peut justifier des moyens immoraux, des massacres de civils, des attaques contre des pays qui n'ont pas attaqué, des assassinats de journalistes, plus de 200 à Gaza tués intentionnellement, ou des bombardements d'installations civiles, d'hôpitaux, d'universités, d'écoles, des villages entiers rasés en Palestine puis au sud du Liban maintenant, sans parler des tortures physiques et psychologiques sur les prisonniers, et parmi eux des médecins qui ne faisaient que leur travail de soigner tous les blessés. Je pense notamment au docteur Houssam Abou Safia, pédiatre palestinien qui dirigeait l'hôpital Kamal Adouan dans la bande de Gaza, dont le fils a été tué par les bombardements israéliens, qui a refusé d'abandonner ses patients, qui a été arrêté et qui est désormais détenu sans charge et sans procès pour une durée indéterminée et soumis à la torture dans une prison israélienne, un parmi tant d'autres. Je parle de cela parce que c'est actuel, c'est bien documenté et que nous en avons des témoignages tous les jours. Mais je sais bien qu'il y a d'autres contrées où il ne fait pas bon non plus être en prison. Malheureusement donc, la Convention de Genève, en son article 13, qui interdit la torture et les traitements inhumains des prisonniers, cette convention est violée chaque jour, non pas en cachette, mais ostensiblement et avec fierté. Et il semble que cela ne dérange personne, comme si nous nous étions habitués à l'horreur, comme si la minimisation de ces faits dans nos médias occidentaux contribuait à la banalisation de l'inhumanité. Les pires crimes sont désormais acceptés comme dommages collatéraux. Le problème, c'est que ce ne sont pas des dommages collatéraux, puisque c'est sciemment voulu, organisé et planifié. Cette accoutumance au mal et à la cruauté dit quelque chose de notre humanité qui se perd. On ne cherche plus à s'entendre, à résoudre les conflits par une vraie diplomatie, mais on cherche à écraser l'autre, ce qui est bien différent. Le 7 avril 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, annonçait à propos de l'Iran « Une civilisation entière va disparaître ce soir, pour ne plus jamais réapparaître. » Il annonçait ainsi qu'il allait rayer de la carte non pas seulement un pays, mais une civilisation, avec toute sa population, son histoire. Mais ce faisant, il annonçait rien de moins qu'un crime contre l'humanité, selon les critères donnés par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais qui réagit encore? Tous les jours, il semble que nous ayons affaire à une surenchère dans l'insoutenable. Certains ministres israéliens sionistes affirment devant caméra ou sur les réseaux sociaux leur désir de voir disparaître tous les Palestiniens, considérés par eux non plus comme des hommes mais comme des animaux, et ceci pour pouvoir s'installer sur leurs terres. Tous les jours, des paysans palestiniens en Cisjordanie sont terrorisés par des bandes de colons qui veulent les faire partir et qui pour cela brûlent leurs voitures, leurs oliviers, leurs champs, voire leurs maisons, et les violentent. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a célébré ses 50 ans avec un gâteau d'anniversaire pour le moins choquant. Le 2 mai 2026, son épouse lui a en effet offert à cette occasion un grand gâteau, décoré d'un nœud coulant, accompagné de l'inscription « Mazel Tov », c'est-à-dire « Bonne chance, bon destin ».« Mazel Tov » au ministre Ben-Gvir. Parfois, les rêves deviennent réalité. Ce ministre extrémiste, lui-même partisan du terrorisme israélien contre la population palestinienne, milite depuis longtemps pour une loi autorisant la peine capitale par pendaison pour les terroristes. Or, la Knesset, le Parlement israélien, vient d'adopter cette loi. Ainsi, le rêve de Ben-Gvir devient réalité. Drôle de rêve. Surtout quand on sait que pour lui, tous les Palestiniens, et pas seulement les combattants du Hamas, sont des terroristes à éliminer, puisqu'il appelle depuis longtemps à la destruction des Arabes et des Palestiniens, hommes, femmes, vieillards, enfants, et au contrôle de la terre, de la mer à l'Euphrate. On se glorifie désormais de l'inhumanité et du massacre des populations. Mais ce qui est encore plus grave, peut-être, c'est précisément l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, dans l'armée pour éliminer les ennemis. On délègue désormais à l'algorithme le choix des cibles. J'avais déjà évoqué cela il y a un an quand je vous avais parlé dans le thème sur l'IA du programme Lavender, mis en place par l'armée israélienne. Il s'agit d'un système d'intelligence artificielle qui choisit les cibles à partir de l'analyse d'une multitude de données numériques et détermine là où doivent être lancées les bombes. L'utilisation de ce programme automatisé pour choisir qui doit être tué est une pratique sans précédent dans les guerres jusqu'à présent. Ce qu'on demande à l'IA, ce sont des résultats. L'IA ne fonctionne pas selon des normes éthiques. Elle n'a pas la notion du bien et du mal, et elle ne tient pas compte des règles de la guerre. Et donc l'algorithme a été formaté pour que si un combattant du Hamas est en haut de l'échelle décisionnaire, on peut tuer jusqu'à 100 civils pour être sûr de l'atteindre, donc femmes, enfants, familles. La fin ici justifie les moyens. Non pas pour l'IA qui fonctionne selon des algorithmes et les données qu'on lui a fournies, mais pour l'état-major israélien qui accepte de déléguer les décisions de meurtre de masse à l'IA. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'industrialisation de la mort passait par les chambres à gaz. Aujourd'hui, elle passe par l'IA. C'est peut-être encore plus efficace, puisque c'est l'IA qui choisit les cibles à bombarder, en analysant une quantité énorme de données récoltées par surveillance massive. Et le militaire n'est là que pour une pseudo-validation formelle. Tout ce que propose l'IA est de fait validé, sans que l'humain cherche vraiment à en vérifier la pertinence. Vous percevez le problème et l'horreur de ce nouveau type de guerre. Quand l'humain disparaît de l'équation, pour ne devenir que la chambre d'enregistrement d'un tueur robotique, exécuteur froid de basses œuvres, eh bien la morale s'efface, les morts innocents s'accumulent, et la crainte que de tels systèmes se généralisent dans le monde ne peut qu'augmenter. Or de fait, j'ai évoqué ce qui se passait en Israël, parce que c'est ce qui est le plus documenté actuellement. Mais cela a tendance à se généraliser. Nous savons que l'entreprise américaine Palantir, créée par Peter Thiel et Alex Karp, et financée en partie par la CIA, a proposé ses services non seulement à Israël durant cette guerre, mais qu'elle les propose aussi à l'OTAN et à de nombreux pays européens, dont la France. Il faut bien comprendre que Palantir est une entreprise de services et d'édition logicielle spécialisée dans les domaines du maintien de l'ordre, du renseignement et de la sécurité. Elle développe et commercialise des logiciels dédiés à la fusion, la visualisation et à l'analyse opérationnelle de tout ce qui se trouve dans le big data, autrement dit de toutes les données personnelles de millions de personnes, données qu'elle croise. Cette entreprise porte donc une promesse. Voir partout, avoir une vision globale en croisant les données, afin de prévoir, anticiper, décider et contrôler. L'un de ces logiciels, Palantir Gotham, est utilisé dans l'armée américaine, dans la communauté du renseignement des États-Unis, le NSA, la CIA, le FBI, et dans des services de police. Ce logiciel est également utilisé par les services de renseignement d'une douzaine de pays européens, dont la France, puisqu'un contrat a été signé entre Palantir et la DGSI. Cette entreprise est particulièrement controversée, parce qu'elle met de fait en place une société de surveillance, en utilisant de façon opaque les données de vie privée de millions de citoyens, sans leur demander leur consentement. Elle est aussi aux services d'État qui se servent de ces logiciels, souvent sans respecter les droits de l'homme, et en allant bien au-delà des objectifs affichés de lutte contre le terrorisme, contre la fraude ou autres délits majeurs. N'oublions pas non plus l'origine du nom de cette entreprise, Palantir. Pour ceux qui connaissent les œuvres de Tolkien ou qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, cela vous rappellera la fameuse pierre de vision nommée précisément Palantir et qui permet de tout observer à distance. Le sorcier Saruman s'en sert pour obtenir des informations et accroître son pouvoir en surveillant tout. Seulement par cette pierre, il entre en contact avec Sauron, puissance ténébreuse qui le dépasse de beaucoup. Saruman croit utiliser l'outil à son avantage. En réalité, c'est lui qui est influencé. Il devient de plus en plus obsédé par le pouvoir et perd son indépendance. Il finit par être sous la coupe de Sauron, qui est le mal absolu. C'est d'ailleurs l'une des leçons symboliques de Tolkien. La connaissance totale et la capacité de tout voir donnent un immense pouvoir sur les peuples pour les asservir. Mais elles peuvent aussi corrompre celui qui croit les maîtriser. L'entreprise Palantir cristallise en elle les dangers d'une intelligence artificielle qui prétend tout voir et tout décider pour nous. Cependant, elle décide pour nous parce que nous le voulons bien. Nous sommes donc désormais à l'ère de la destruction de masse par délégation de notre responsabilité morale à une machine programmée pour cibler et tuer. Quand l'être humain abdique ce qui fait sa grandeur, qu'il délègue son intelligence, ses décisions, sa responsabilité à ce qui ne pense pas, à ce qui est incapable d'aimer, nous ne pouvons que tomber dans le gouffre de l'inhumanité. En fait, nous vendons notre âme à Sauron, si on se réfère au Seigneur des Anneaux, ou bien à Satan, si on se réfère à la Bible. Le pape Léon XIV s'élève à la fois contre l'hubris des dirigeants qui cherchent à étendre leur domination et contre la délégation de la décision de tuer à l'IA. Dans sa réflexion lors de la veillée de prière pour la paix le 11 avril 2026, il a répondu d'une certaine manière à Donald Trump qui prônait la paix par la guerre, l'écrasement de ceux qui lui résistent et la poursuite d'une politique de domination. « La guerre divise, l'espérance unie, affirme le pape. La tyrannie piétine, l'amour élève. L'idolâtrie aveugle, le Dieu vivant éclaire. Et face aux ravages de la guerre, face à cette chaîne démoniaque du mal, comme il l'appelle, le pape demande à ce que nous nous mettions au service du royaume de Dieu. Un royaume, dit le pape, où il n'y a ni épée, ni drone, ni vengeance, ni banalisation du mal, ni profit injuste, mais seulement dignité, compréhension et pardon. Et il poursuit en disant « Nous avons là un rempart contre ce délire de toute puissance qui autour de nous devient de plus en plus imprévisible et agressif. Même le nom saint de Dieu, le Dieu de la vie, est entraîné dans les discours de mort. » Le pape fustige ainsi cette tendance très présente aussi bien en Israël que dans les courants évangéliques américains ou dans l'islamisme radical, tendance qui consiste à justifier la guerre au nom de Dieu, de justifier des massacres au nom de soi-disant promesses divines, comme si Dieu pouvait bénir les guerres de conquête, de domination et les massacres de civils. C'est là une véritable falsification de la religion, une idolâtrie et un asservissement à celui qui est menteur et homicide depuis le commencement, à savoir le diable. Le pape n'y va d'ailleurs pas de main morte dans sa correction fraternelle. « Est asservi à la mort, dit-il, celui qui a tourné le dos au Dieu vivant, pour faire de lui-même et de son propre pouvoir l'idole muette, aveugle et sourde, à laquelle sacrifier toute valeur et exiger que le monde entier plie le genou. Assez donc avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent. Assez avec la démonstration de force. Assez avec la guerre. La véritable force se manifeste dans le service de la vie. » Le pape Léon XIV dénonce une culture de la puissance qui s'infiltre partout dans la société et qui se répand en banalisant et en normalisant la guerre, en la réhabilitant comme instrument de politique internationale, tandis que les critères éthiques même qui en avaient limité l'usage sont progressivement érodés. Quant à l'usage de l'IA dans les conflits armés, l'usage des systèmes d'armes à autonomie opérationnelle, le pape rappelle avec vigueur que de tels systèmes ne sauraient émettre un jugement moral et agir selon des critères éthiques, car, dit-il, un jugement moral ne se réduit pas à un simple calcul. Il implique la conscience, la responsabilité personnelle et la reconnaissance de l'autre en tant que personne. Et oui, les victimes ne peuvent être réduites à de simples données. Et il en tire la conclusion appropriée. Il n'est donc pas acceptable de confier à des systèmes artificiels des décisions mortelles. Attention, dit-il encore, car l'IA nous habitue à l'idée que la violence est inévitable et qu'il suffit de l'optimiser. Face à ce danger, le pape Léon XIV rappelle quelques critères qui semblent évidents, mais qui sont malheureusement trop souvent mis de côté. Le premier est celui de la responsabilité personnelle de la décision qui doit être absolument maintenue. Car lorsque la décision de frapper devient automatique ou opaque, le risque de déresponsabilisation augmente. Or, l'homme doit rester le dernier responsable, sans se défausser sur la machine. Il doit pouvoir rendre compte de ses choix, pour pouvoir éventuellement être jugé. D'autre part, le choix éthique a besoin de temps. Or, la rapidité de l'IA court-circuite le temps nécessaire à la réflexion et à un discernement juste. Donc, il y a problème. Enfin, dernier critère, celui de la protection des civils, et le pape a cette parole forte. Toute technologie qui facilite le fait de frapper sans voir le visage de l'autre abaisse le seuil moral du conflit. Le pape invite donc à se souvenir de la protection due, dans toute guerre, aux civils et aux infrastructures nécessaires à leur survie. Et en conséquence, il affirme « L'intelligence artificielle doit être désarmée, c'est-à-dire libérée des logiques qui la transforment en instrument de domination, d'exclusion et de mort. » Et de fait, c'est à cette condition seulement qu'elle ne servira pas le projet d'une nouvelle Babel, mais qu'elle sera au service de tous et du bien commun, au service de la reconstruction de Jérusalem, autrement dit de la civilisation de l'amour. Puissent les hommes accueillir le don de sagesse pour servir Dieu et la magnifique humanité plutôt que leur ego, leur orgueil, et finalement le prince de ce monde.